Les routiers sont toujours aussi sympas avec Sébastien Ponchelet. Le replay.
Jusqu'à 23h, bonsoir à toutes et à tous, Thibaud Dinouel au micro du 107.7 ce soir, mais je ne suis pas tout seul évidemment pour m'accompagner puisque Sébastien Ponchelet est bel et bien à mes côtés, enfin à mes côtés à distance. Bonsoir Sébastien, où êtes-vous exactement ?
Bonsoir Thibaut, bonsoir à toutes et à tous. Alors on va faire un petit préambule quand même hein, parce que même au bout de 4 ans d'émission, nous arrivons encore à faire des grandes premières, des émissions en extérieur, nous en avons déjà fait beaucoup en direct d'aires de service, de relais routiers, d'écoles de conduite ou encore en direct de rassemblement camion. Et bien ce soir, ce sera en direct d'une entreprise de transport et pour cette grande première je commence bien, tiens, les Transports de Lille ont gentiment accepté de nous recevoir au sein du site où tout a commencé pour eux en Seine-et-Marne et je ne suis pas venu seul non plus, mesdames, messieurs, Perrine Martin. Bonsoir Perrine, tout un programme.
Hello Seb, bonjour à tous. Oui, tout un programme. Nous allons partir à la découverte de l'histoire familiale des transports de Lille, des coulisses, de tout ce qu'ils font, de tout ce qu'ils font même les transports de Lille.
Oui.
C'est mieux, vous voyez.
J'ai fait exprès, j'ai mis des pièges.
Des coquilles.
Oui, c'est ça.
Vous êtes joueur. Et sachez en plus que d'être une émission en direct, bon, c'est un peu une émission en public. Est-ce que la foule est en délire autour de nous ?
Est-ce qu'il y a du monde ce soir ?
Et voilà.
On a du monde ce soir. Nous entrons dans le détail juste après l'infotrafic, Thibaut. Et je vous cède. Oui, c'est à vous. Non, mais je vais essayer de parler français ce soir, je vous le promets.
Tout va bien se passer, Sébastien. Effectivement, je reprends la parole et on vous retrouve juste après pour le début de cette émission. Je vous présente également les deux copilotes qui m'accompagnent ce soir pour le trafic. D'abord, Marielle Nougaret dans le Sud-Ouest. Bonsoir, Marielle.
Bonsoir, Thibaut. Bonsoir Sébastien, Perrine, Hervé, nos invités. Bref, que de monde ce soir.
Ah oui, ça va être une belle émission. Et Hervé Améry, donc dans le Sud-Est. Bonsoir Hervé.
Bonsoir Thibaut. Et j'ai l'impression que c'est un peu le jeu des sept familles ce soir. Bonsoir Marielle, bonsoir Perrine, bonsoir Sébastien,
monde, hein.
Bonsoir La Ferté Gaucher, bonsoir tout le monde.
Bonsoir la Reine des Neiges. Enfin, ouais, ça commence à faire du monde. On retrouve Sébastien et Perrine depuis donc les transports de Lille dans un instant, après le point trafic qui arrive après la météo. Donc. Spéciale ce soir en direct des transports de Lille. On part retrouver Sébastien et Perrine dans le département de la Seine-et-Marne.
En direct de la Ferté-Gaucher, précisément, berceau de l'entreprise, de nombreux invités ce soir avec une voix déjà bien enrouée. On commence. Et il a fallu jouer à Tetris, je vous le dis, pour pouvoir placer tout le monde, car nous avons envie d'en savoir plus sur les transports de Lille et sur leur fonctionnement, Perrine.
Alors, nous allons parler parc de camions, mécanique, logistique, commercial, ressources humaines. Bon, tout cela, vous connaissez sûrement, mais comment ça se passe ici, chez les transports de Lille? Peut-être pour commencer, est-ce qu'on peut parler de l'histoire très familiale, et je pose mes mots, de cette entreprise.
Oui, en effet, vous allez vite le découvrir d'ailleurs. D'ailleurs, avant de vous présenter nos premiers invités, je vous rappelle notre sondage de ce soir. Travailler dans une entreprise de transport à l'histoire familiale, est-ce une condition pour vous? Pour voter, rendez-vous à l'arrêt sur la page Facebook Les Routiers sont toujours aussi sympas ou sur le site internet de la radio, radio177.fr. Il y a un bandeau orange, votez et venez nous en dire plus ensuite via la bulle bleue Messenger. Bonsoir Jonathan Delisle.
Bonsoir.
Comment ça va ?
Très bien.
Alors déjà, nous nous rencontrons enfin car vous avez déjà participé à l'émission et d'ailleurs vous avez fait partie des premières grosses entreprises du pays à intervenir dans Les Routiers sont toujours aussi sympas. Un grand merci de nous accueillir ici chez vous. En ce qui vous concerne, vous allez passer toute l'émission avec nous. Vous serez ce que nous appelons dans notre jargon notre fil rouge. Vous êtes prêts ? C'est bon ?
Je suis prêt, c'est parti.
Mais d'abord, avant de revenir vers vous, bonsoir Jean-Louis Delisle.
Bonsoir.
Merci beaucoup aussi de nous accueillir parce que c'est avant tout chez vous depuis le départ. Et on ne pouvait pas ne pas commencer avec vous, c'était pas possible.
Est-ce qu'on pourrait dire quand même, Seb, que c'est un honneur ?
Oui, ah bah oui. Ça c'est très clairement, on ne peut pas faire plus honneur que de pouvoir interviewer Jean-Louis Delisle. On remerciera les personnes concernées tout à l'heure. Papa de Jonathan, si je ne m'abuse.
C'est ça.
Voilà. Et fondateur de l'entreprise, car nous ne pouvions pas évoquer les transports de Lille sans en évoquer l'histoire. C'est en 1977, si je ne dis pas de bêtises, que vous vous lancez avec un premier camion. Mais à quel moment et pourquoi vous vous dites « je veux mon entreprise de transport » ?
Ben, j'ai pas trop eu le choix. Hein. J'étais routier, donc je roulais, j'avais une patronne. Et à cette époque-là, il y avait des frais de déplacement. Et puis, ben, on était remboursé à la fiche. Et puis, un jour, elle m'a donné un compte-rond et je lui devais 10 centimes. La semaine d'après, elle me l'a réclamé, je ne l'avais toujours pas. Et là, le ton a monté et on m'a montré la porte.
10 centimes.
10 centimes.
Mais 10 centimes...
De francs.
De francs.
1,5 euros, je pense. Ouais. Alors...
Mais 10 centimes, c'est finalement, ces 10 centimes, ce n'est pas un peu grâce à eux que vous avez pu créer les transports de Lille ?
Bien sûr, c'est grâce à une pièce de 10 centimes, parce que si je l'avais eu dans mon porte-monnaie, j'aurais fini ma carrière routier.
Et le premier camion, il arrive comment ?
Le premier camion, il arrive... je reprends l'entreprise de transport d'un monsieur... qui voulait prendre sa retraite, qui n'avait pas de repreneur, qui avait un camion. Et puis donc, mon frère, qui était au régiment, connaissait quelqu'un, parce que j'étais sans emploi, du coup. Hein. Et j'ai été voir ce monsieur. Il m'a dit, voilà, ça fait tant pour racheter mon ensemble. Et bien sûr, je n'ai pas pu avoir les crédits. Et ce monsieur-là m'a rappelé 15 jours après pour me dire, voilà, est-ce que vous voulez que... Vous me semblez sérieux, on va vous faire un crédit vendeur, c'est-à-dire je lui ai signé 60 traites. Bien sûr, quand je me suis mis à mon compte le 1er septembre, quand je suis rentré le vendredi soir, j'avais plus de gasoil, j'avais peu de sous. Donc j'ai été vendre mon camion, comme ce n'est pas une banque qui me l'avait financé, j'ai été vendre mon camion chez un concessionnaire et j'en ai racheté un qui coûtait 10 fois moins cher.
Et aujourd'hui, vous en avez combien ?
Il faut demander à Jonathan.
Jonathan, il y en a combien ?
Précisément, je ne sais pas, mais on est aux alentours de 1150 à peu près.
1150, ah oui, quand même. On est toujours avec Jean-Louis Delisle. On a vu comment est arrivé le premier camion.
C'est ça.
Est-ce que vous attendiez à arriver en 2024 avec autant de véhicules ?
Pas du tout, non. Là, franchement, pas du tout.
Non. Vous êtes dit quoi au début ?
Rien, j'ai bossé.
Alors, on était en 77, 1977.
Oui, c'est ça.
Vous aviez quel âge, vous ?
J'avais 28 ans.
Oui, 28 ans. Et maintenant, vous transmettez oui. À la génération qui suit. Ils avaient envie, selon vous, de prendre derrière vous ? Ils ont toujours eu envie ?
On leur posera la question, de toute façon.
Hein, parce que vous n'avez pas l'air hyper commode, comme ça.
vous rigolez, vous ? Alors, je ne me suis jamais posé la question s'ils avaient envie.
Oui.
Jonathan travaillait avec moi depuis l'âge de 19 ans. Et puis, à un moment, je me suis dit qu'il était temps que je me retire, parce que rester tout le temps à mes côtés, sans jamais avoir une date, il aurait pu se lasser. Donc, j'ai eu l'intelligence, on va dire, de m'écarter. Sauf que la première année, ça a été très, très dur. Il a fallu que je prenne un petit coup de pied dans le cul pour me détacher. Mais après, ça s'est très bien passé.
Bon, sachant qu'il n'y a pas que Jonathan. Vous n'avez pas qu'un fils. Et je crois aussi qu'il y a des cousins, des cousines.
Oh, des cousins, oui, il y en a.
Vous bossez tous ensemble.
Tous ensemble. Et avant que les enfants reprennent, je bossais avec mon frère, ma sœur, toute la famille.
Oh, le bonheur.
C'est plus facile ou pas de travailler en famille ? De toute façon, vous n'avez fait que ça, vous, de travailler en famille.
C'est facile à partir du moment où il n'y a pas d'injustice, pas d'inégalité. C'est-à-dire que j'ai toujours mis un point d'honneur à ne pas gagner plus que mon frère, que mes collaborateurs et tout ça. Ce que fait aussi Jonathan à ce jour. Et donc, ça, c'est ce qui permet d'avoir une osmose.
Voilà. Jonathan, justement, est-ce que ça a été une évidence de prendre la suite de papa ? Ou au début, Alors, à un moment, ça va finir par tu, je te le dis. Ou au début, tu avais peut-être envie de faire autre chose ?
Non, j'ai toujours voulu être dans le monde du transport. En fait, j'ai baigné dedans, hein, comme vous imaginez. Et j'ai toujours été attiré par faire le planning. Hein. Ce qui m'intéressait à la base, c'était l'exploitation. J'étais fou de géographie. Et voilà, j'aimais bien optimiser pour faire une bonne rentabilité pour l'entreprise. Donc, je suis rentré comme ça. Et puis après, de fil en aiguille, c'est vrai que mon père m'a demandé si éventuellement je voulais voir autre chose. Et puis, j'ai accepté... une première mission en descendant dans une agence qu'on avait repris dans le sud de la France.
C'est ça.
Voilà, qui m'a un peu ouvert sur d'autres aspects que l'exploitation. Et puis après, quand je suis revenu ici à La Ferté-Gaucher, il m'a dit tiens, tu vas aller avec le DRH, avec le directeur des achats, pour me former un petit peu aux différents métiers d'une entreprise de transport. Et puis après, il m'a dit écoute, t'es prêt, tu viens avec moi dans mon bureau. Et puis voilà, on a fait une...
On est resté 5 ans tête à tête.
C'est ça, à peu près, ouais.
Et vous diriez quoi, Jean-Louis, aujourd'hui que vous avez passé la main vraiment? Est-ce que vous, vous êtes arrivé au bout de l'histoire des transports de Lille? Ça y est, c'est vraiment Jonathan qui... Où vous avez encore, vous, des idées,
non,
des envies,
non,
des projections?
Non, c'est, mes idées sont du passé. Hein.
Ils sont dubitatifs, là, dans le public, hein. je tiens à vous le dire.
Ouais, bah c'est des hypocrites. Voilà, faut le dire. Hein.
Place aux jeunes, quoi.
Place aux jeunes, tout à fait. Voilà, il faut qu'ils amènent des idées nouvelles qui sont plus les miennes. Je suis voilà.
Alors, je tenais à vous dire une chose, c'est que j'ai rencontré Jean-Louis Delisle. Il était 17h tout à l'heure, et on m'a dit, et lui aussi m'a dit, est-ce que en 10 minutes c'est possible de parler des transports de Lille? Moi, je le savais évidemment que non, mais il me l'a bien confirmé, il me l'a bien fait comprendre. Mais on aura l'occasion de se reparler, Jean-Louis. Si vous accepterez une nouvelle invitation, et là, je pense qu'on aura beaucoup de choses à se dire tous les deux.
Deux heures.
Et il veut deux heures. Il a dit qu'il voulait 2 heures, donc il aura 2 heures. En tout cas, c'est un vrai personnage, et je peux vous dire que c'est très très agréable d'avoir fait sa rencontre aujourd'hui. Un grand merci, Jean-Louis, d'avoir ouvert cette émission consacrée, eh bien, finalement à votre famille, finalement à votre bébé, finalement les transports de Lille. Tiens d'ailleurs, un bébé de Lille, il en sera question dans le courant de cette émission. Je vous en dis pas plus. Périne, on va passer la main peut-être parce que je suis
déjà... C'est l'heure du trafic.
Oui, parce que comme d'habitude, je suis déjà très en retard. C'est à vous, Thibault.
Merci, à tout de suite, Périne et Sébastien. On vous retrouve juste après le trafic. Et je vous rappelle que vous pouvez continuer d'envoyer vos messages, vos réactions quand vous n'êtes pas en train de conduire, bien sûr. Sur notre site radio177.fr, il y a la petite bulle bleue Messenger. Vous cliquez sur envoyer un message. Périne et Sébastien reçoivent tous vos messages depuis leur studio délocalisé ce soir en Seine-et-Marne pour une toute première en direct, donc d'une société de transport, Sébastien.
En direct des transports de Lille, ici à la Ferté-Gaucher, dans le département de la Seine-et-Marne. Alors, de retrouver nos prochains invités, on retrouve une nouvelle fois Jean-Louis Delisle parce qu'il avait une belle dédicace à faire passer.
Voilà, ben je voulais vous remercier et souhaiter bonne route à tous les routiers qui conduisent de nuit, qui sont encore au volant à l'heure que l'on se parle. Et je souhaite une très très bonne...
route.
Très bonne route à eux.
Et moi, j'ai un message aussi pour vous. Oui. Un certain Marc Marchand qui nous a écrit ce soir. Moi, retraité des transports de Lille, j'ai toujours des contacts avec la direction et les chauffeurs. J'ai eu le papa puis le fils et je n'ai que de bons souvenirs.
Eh ben, merci à Marc.
Ça fait plaisir. Voilà. Je pense qu'on en aura d'autres, des messages comme ça tout au long de cette soirée. Merci Jean-Louis. Et nous allons accueillir un nouvel invité. Nous allons accueillir Marian Delisle. Bonsoir Marian.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, tu es directeur général adjoint et directeur d'exploitation au sein de l'entreprise. Mais on va commencer quand même par une question importante. Dans l'arbre généalogique des Delisle, on se situe où là globalement?
A priori, je suis le cousin de mon cousin et le neveu de mon oncle. Jusqu'ici.
Elle va être intéressante cette interview. Si, elle va être intéressante. Si, j'insiste.
Donc je suis le neveu de Jean-Louis.
Donc Jonathan, le cousin.
Jonathan Delisle, qui est mon cousin.
Voilà, donc pour moi c'est un peu plus clair là déjà. Hein, voilà. L'enfance avec le cousin dans le transport, vous étiez très connecté quand même?
Alors on a commencé sur un skateboard déjà, en dévalant les pentes du grand-père. c'était nos premiers transports. Puis on a grandi ensemble un certain temps. Moi, je me suis dirigé après mes études sur du transport vertical d'humains, donc en tant qu'assesseuriste. C'était différent. Et donc, j'ai rejoint l'entreprise en 2015. Je suis passé par l'exploitation alimentaire, ensuite l'exploitation industrielle. Et puis, petit à petit, on m'a donné différentes responsabilités, les achats, la communication, le service informatique, hein, donc pour superviser tous ces services. Et j'ai repris, bien évidemment, la direction des pulvées, donc c'était un pulvée.
Alors, ça peut parler à beaucoup de nos auditeurs, mais pour les non-initiés, votre job, en fait, il consiste en quoi?
Alors, globalement, je supervise deux exploitations, donc une en pulvée alimentaire. Donc, la pulvée alimentaire, c'est du transport de sucre, de farine, d'amidon, de sel alimentaire, et en pulvée industrielle, où là, ça va être plus du ciment, du sable, ça peut être aussi du plastique, du PVC. C'est ce genre de produits qu'on transporte quotidiennement au sein des transports de Lille et notamment de l'activité pulvée.
Il y a donc des sites, c'est ça, différents sites que vous exploitez en France?
Alors, l'activité pile levée se situe principalement au siège social, à la Ferté-Gaucher. Mais après, l'ensemble de nos conducteurs et l'ensemble de nos ensembles peuvent se situer sur un de nos 24 sites répartis en France.
24, ok.
Pile levée, toi, ça te parle ?
Pas du tout.
Voilà.
Mais je fais genre, j'ai compris.
Ouais, tu fais genre depuis tout à l'heure. Hein. Non, parce que là, moi, pull V, si tu veux, moi, je pulvérise, moi, sur mon canapé.
Moi, je porte des pulls en V.
Ah, dehors, tout de suite. Pull V, quoi qu'est-ce ?
C'est un produit pulvérulent, poudreux, si vous préférez.
Ouais.
Voilà, de type farine, sucre, voilà, quelque chose qui est pulvérulent.
Pulvérulent, d'accord, et ça se transporte.
Et ça se transporte, tout à fait. C'est sur des grosses quantités, donc on livre principalement les gros industriels du pays, un peu dans le Benelux. Voilà, on est l'initiateur, enfin le transporteur de toutes les matières premières, à la fois en industriel et en alimentaire.
Merci Marion pour ces toutes premières explications. On va appeler un nouvel invité au micro du 107.7. De toute façon, on retrouvera tous nos invités à la fin de cette émission, évidemment, pour les remercier parce qu'ils ont pris le temps de venir. Et pour en parler, alors, chez les Transports de Lille, nous demandons aussi une autre branche importante, la logistique. Et pour en parler, un autre directeur, Johan Doublé, dit bébé de Lille. Alors, bonsoir.
Bonsoir à tous.
Obligé de commencer par là. Pourquoi ce surnom ?
Pourquoi ce surnom ? Parce que, on va dire que mon activité professionnelle est née au transport de Lille et j'ai été un peu pris au berceau pour aujourd'hui devenir directeur de la division logistique stockage.
Rassurez-moi, Jonathan, vous ne les faites pas travailler des 13 ou 14 ans quand même.
Non, plutôt 10, 12 ans.
Ah, bon, ça va alors. On est dans les clous. On reste dans les clous. C'est bien. Non, mais c'est bien. Parfait. Peut-être une question d'ailleurs rapide, Jonathan de Lille, parce que nous avons de très jeunes auditeurs, figurez-vous, qui souhaitent devenir, par exemple, conductrice, conducteur routier. Je pense à JC, un de nos auditeurs qui a 15 ans et qui nous écoute tous les soirs. Et nous avons déjà reçu des messages d'auditeurs qui nous disent que lorsqu'ils commencent dans le transport routier de marchandises, leur manque d'expérience est souvent un frein en entretien d'embauche. Mais vous, au contraire, vous souhaitez faire confiance assez vite. C'est un petit peu le retour que j'ai depuis que j'ai commencé à préparer cette émission.
Oui, tout à fait. On a mis depuis quelques années déjà en place une politique d'alternance où on prend beaucoup de jeunes dans les lycées professionnels pour justement leur faire découvrir nos métiers, nos différents métiers, et pour leur donner goût à ce métier, parce qu'on le sait, hein, aujourd'hui, c'est un métier qui est pénurique et qui va continuer de l'être pendant au moins plusieurs années. Donc, on se doit de faire l'effort, on va dire, à notre niveau, et d'autres le font aussi, pour justement mettre le pied à l'étrier à des jeunes qui souhaiteraient éventuellement se lancer dans ce métier. Et puis aussi, on peut rajouter qu'on a pour projet d'ouvrir très prochainement une école de formation, justement, ici à la Ferté-Gaucher.
La De Lille Académie ?
Alors, ce ne sera pas De Lille Académie, on n'a pas voulu copier sur nos confrères, mais...
ça existe, mince.
Bah, oui, ça existe.
La Moffré Académie.
Académie. Voilà. Donc, mais on va quand même ouvrir notre propre école, alors beaucoup plus modeste que notre confrère, mais voilà, l'idée, c'est quand même de donner, notamment aux jeunes de la région, où il n'y a pas beaucoup d'écoles d'ailleurs, de susciter des vocations dans le transport ou la logistique.
D'ailleurs, je peux même vous dire qu'il y a déjà il y en a qui sont partants. Hein. Il y a Gérald qui nous dit « Ouais, j'aimerais bien y bosser, moi, voilà. » Donc comme ça,
on a le DRH, la RRH qui est ici, donc pas de soucis.
On peut passer les CV aussi, hein. N'hésitez pas, il n'y a pas de problème, on est là pour ça. On va retrouver maintenant Johan pour tout simplement une question un peu bête. Basique, désolé, hein, c'est une question de journaliste. Hein. Quel est le rôle du directeur logistique chez Transports de Lille ?
Aujourd'hui, sur la partie stockage, c'est de gérer pour nos clients toute leur préparation de commande pour pouvoir emmener dans les sites type Carrefour, Auchan, en temps et en heure, les marchandises qui sont demandées.
Il y a maintenant des entreprises qui sont spécialisées dans la logistique. C'est un gros plus que d'avoir au sein même de son entreprise cette branche aujourd'hui ?
En fait, en ayant ce gros plus, c'est qu'on peut offrir à nos clients vraiment le package complet du transport jusqu'à la livraison et au traitement des commandes.
C'est combien de personnes que tu gères ?
Aujourd'hui, on est une trentaine.
Une trentaine, et c'est réparti sur l'ensemble du territoire ?
Sur principalement le nord de la France, avec 6 sites et 120 000 m² de stockage.
Oh, ça commence à faire, hein, 120 000 m² de stockage. On ne se rend pas compte, là, quand même. En tout cas, un grand merci d'avoir passé ces quelques minutes avec nous. Je pense que je te je te ferai peut-être revenir au micro. J'ai peut-être des questions supplémentaires parce que j'ai toujours plein de questions. Chez les transports de Lille, nous allons découvrir autre chose. Merci déjà à Marion et Johan dit bébé de Lille. J'ai adoré ce surnom. Hein. Merci de me l'avoir dit. Vraiment, je ne sais pas qui a eu cette idée, mais franchement, elle est excellente. Je rappelle que vous êtes respectivement directeur d'exploitation et directeur logistique chez les transports de Lille.
Je me pose une question, Seb, parce que on parle de plein de choses, mais alors les camions dans tout ça ?
Ah bah, oui, parce que c'est un peu la base. Oui.
Ouais. Ouais. Mais il y en a ici ?
Jonathan de Lille, il y a des camions ici ou pas ?
Bah, il me semble, ouais. J'ai cru en voir quelques-uns là devant nous sur le parking.
Ouais. Ouais.
Et bah, on va peut-être aller les retrouver après le point trafic de 21h30.
Juste après, oui, oui. On en a quelques-uns à voir et peut-être à vous montrer, j'ai envie de dire.
Je ferais bien un Facebook Live, moi, personnellement.
Carrément. Si vous êtes en train de conduire, on ne manipule pas le téléphone au volant. Parce qu'en plus, il y a le chef qui écoute, hein, pour ceux qui sont chez les transports de Lille. Et pour tous les autres, c'est pareil. Hein. C'est parce que vous n'êtes pas chez les transports de Lille que vous manipulez le téléphone au volant. En revanche, si vous êtes à l'arrêt, c'est radio177.fr. Vous cliquez sur la bulle bleue Messenger et sur envoyer un message pour nous faire part de vos réactions, de vos commentaires, de vos témoignages et de vos messages. Et je vous rappelle que notre sondage est toujours d'actualité. Est-ce que travailler pour vous dans une entreprise de transport à l'histoire familiale, c'est une condition pour vous ? Eh bien, vous pouvez aller répondre également sur la page Facebook Les Routiers sont toujours aussi sympas ou sur notre site internet radio177.fr. Vous cliquez sur le bandeau orange, vous votez et vous venez nous en dire plus ensuite.
Émission spéciale toujours en direct depuis les transports de Lille située à la Ferté-Gaucher en Seine-et-Marne. On y retrouve Sébastien et Perrine. Sébastien, Perrine, vous avez un petit peu bougé.
On commence à bouger et en fait il va dire bonsoir pour une troisième fois notre prochain invité, je t'expliquerai. Bonsoir Sébastien.
Bonsoir.
Sébastien, Yvon, rappelle-nous, tu es responsable du parc de camions, c'est-à-dire ?
Oui, responsable de tous les véhicules roulants du groupe.
Donc tu les vérifies toi, un par un ?
Non,
ah.
Moi, j'ai des collaborateurs qui sont là, en fait je les organise, je supervise tout le monde, mais heureusement j'ai des gens autour de moi.
Voilà, et ben on va en parler de cette équipe, mais là, figurez-vous, on est en Facebook Live, hein, pour tout vous dire en ce moment même. On va sortir, on va accompagner Sébastien à l'extérieur pour aller découvrir un des types de camions que possède le transport de Lille. Il me tient la porte, il est adorable. Et donc là, nous sommes... peut-être que Thibault, est-ce que on a un peu d'écho ou le son, c'est bon là pour l'instant ?
Non, alors parlez peut-être un petit peu moins près du micro parce que ça sature. Votre invité, ça va, mais vous, éloignez-vous un petit peu, Sébastien.
Vous savez très bien que moi, j'ai une grande gamelle.
Mais
donc,
oui.
donc là, nous sommes face à deux camions-citernes des transports de Lille. Peux-tu nous les présenter ?
Alors, on va commencer par le véhicule de transport pulvérulent que notre directeur a présenté tout à l'heure, donc les produits en poudre.
Il y en a combien à peu près là ?
Alors, autour de 400.
Autour de 400. Voilà. Est-ce que tu dirais que c'est ce que vous avez le plus ou
Non, c'est pas ce qui représente le plus. Par contre, c'est le cœur de métier à la base. Ouais. Quand Jean-Louis a commencé, c'était les produits pulvérulents.
C'était la citerne.
C'était la citerne de produits pulvérulents.
De produits pulvérulents. On a du public, hein, on l'avait dit, hein, Seb, je t'aime. Ben ça, en fait, faut tout vous dire que j'ai vite compris qui était le personnage quand je suis arrivé ici au transport de Lille et je peux vous dire que c'est très sympa et c'est très agréable. On va découvrir une autre citerne là qui est elle aussi toute neuve, toute fraîche et qui transporte quelque chose de bien particulier. Explique-nous.
Alors cette citerne elle va être dédiée à la livraison de l'oléosang. Notre partenaire pour le biocarburant.
Pour le biocarburant et qui plus est, cette citerne roule, je crois, à l'oléosang.
Oui, le camion est oléosang. C'est une volonté du groupe. La transition énergétique passe par l'oléosang.
L'oléosang, si j'ai bien cru comprendre, c'est fait à base de colza. Explique-nous un petit peu pour tous nos auditeurs l'oléosang.
Alors, je ne connais pas exactement la composition chimique, mais je sais que c'est fait à base de céréales, une mixture magique. Voilà.
Alors, c'est un petit peu fort, me dit-on, Thibault. Est-ce que vous...
Vous rigolez trop fort.
Bah oui, vous rigolez trop fort, monsieur. Bah oui, mais je suis comme ça. L'oléosang, donc, qui va être transporté par cette magnifique citerne. Si franchement, à votre prochaine pause, vous pouvez aller voir ce Facebook Live, on va s'en approcher. D'ailleurs un petit peu plus, Perrine, pour qu'on puisse effectivement les admirer. Thibaut, n'hésitez pas à m'interrompre s'il y a des nouveaux événements, parce que là, je n'ai pas vu sur les nouveaux événements, pour le coup. Pour l'instant, tout va bien. bien. Voilà, donc on s'approche de ces camions. Ce qu'il faut quand même voir, le camion de Luc 59. Luc 59, c'est pas quelqu'un qu'on va entendre tout à l'heure dans l'émission?
C'est notre chauffeur qui interviendra pour présenter l'entreprise.
D'un point de vue conducteur.
D'un point de vue conducteur.
Alors toi, ton histoire avec les transports de Lille?
Alors moi, les transports de Lille, j'ai une histoire un peu particulière. En fait, j'ai commencé tous mes stages professionnels et les samedis et mes vacances scolaires, je travaillais ici. Donc Jean-Louis, j'étais le petit jeune qui venait gagner son petit...
Bébé de Lille 2.
Oui, pas tout à fait, parce que moi derrière j'ai été, je suis parti rouler en extérieur, j'ai fait mes armes dans d'autres entreprises de transport, et depuis 2 ans et demi je suis revenu un petit peu dans la région, et donc connaissant les transports de Lille,
ça
a été un bonheur de revenir 20 ans plus tard.
20 ans plus tard avec quand même ces magnifiques camions citernes que nous avons sous les yeux, ça fait partie des beaux bijoux, on peut le dire. Hein.
Oui. Oui, oui, on est assez fiers cette année. On trouve que les véhicules ont de la gueule. On a fait un bon choix, je pense. Enfin, on espère surtout.
Ouais. Alors maintenant, on te remercie. On te retrouvera peut-être un peu plus tard dans l'émission. Parce que là, on va interroger un autre. Et d'ailleurs, il a bien fait d'être juste après Sébastien. Parce que vous savez, le « Je t'aime, Seb ». Eh ben c'est lui qu'on a entendu de loin, Bah oui, parce que j'ai reconnu.
Effectivement.
Bon, salut Tristan.
Salut.
Comment on tombe dans les transports de Lille?
Alors non, je vais pas dire la même chose. Mais... alors pendant 5 ans, j'étais saisonnier chez les transports de Lille. Donc c'est une entreprise dynamique. Donc ça m'a plu avec nos collaborateurs de je sais pas quoi dire.
Ah mais non, ce sont les allus directs. Ce qui est intéressant, c'est le terme saisonnier, parce que moi j'ai découvert ce terme en t'appelant hier j'étais loin de me douter qu'il y avait des saisonniers dans le monde du transport.
Si, l'entreprise de Lille fréquemment tous les étés avec un surplus de charges de travail est amenée à appeler des saisonniers, des jeunes. Comme j'ai fait fait partie du moins, et chaque année des saisonniers viennent renforcer les effectifs.
Est-ce qu'il y a un type de camion que tu préfères taper? Alors, le citerne,
Mercedes, mais bon, dans l'heure actuelle des choses, Renault serait préférable.
Ça c'est fait, ça c'est dit. En tout cas, merci beaucoup Tristan pour ces quelques mots, et puis partager. On sent qu'il y a une passion quand même derrière ça.
Oui, pour l'entreprise avec une bonne dynamique, des collaborateurs, des chefs hors normes.
Je vous dirai qui est le chef hors normes quand nous le recevrons. Voilà, parce que j'ai bien vu son regard à Tristan vers qui il se dirigeait. Il va passer.
Un regard de détresse.
Mais bon, alors t'as quel âge?
Alors moi j'ai 23 ans.
23 ans, tu commences.
Et
tout juste.
Mes dents.
Nous sommes chez les transports de Lille, mesdames, messieurs. Je résiste pas. On va anticiper un petit peu. Bonsoir, Vincent de Lille.
Bonsoir.
Donc, c'est le chef qui est appelé au secours.
Ouais, visiblement. Hein, je stresse Tristan. juste au micro, il tremble.
Oh, mais non. Mais en tout cas, il a l'air d'être motivé. Ça fait plaisir.
Oui, non, mais motivé. Tristan était saisonnier. Et pour le coup, c'est vraiment une pépite, comme on dit. Hein. C'est vraiment un jeune qui faisait ses études dans le droit et qui est arrivé chez nous en tant que saisonnier. Et puis du coup, on l'a même motivé à venir chez nous. Mmh. On lui a dit vraiment, des gamins comme toi, il n'y en a pas beaucoup. Et puis, il nous a cru. Donc, on l'a embauché.
Il nous a cru. Sébastien, je te vois rire au fond. En tout cas, merci Vincent, parce qu'on va apprendre à te connaître tout à l'heure. Ouais. Voilà. On va pas tout dévoiler, parce que sinon, voilà. Mais en tout cas, nous, on va se retrouver dans un instant pour la suite de cette émission en direct sur le 107.7. Et puis, Thibaut, c'est à vous. Radio, le 107.7, 21h45. Ouais.
Oui, émission spéciale, car c'est une première en direct d'une entreprise de transport. Sébastien et Perrine sont chez les transports de Lille en Seine-et-Marne.
Exactement, à la Ferté-Gaucher, les routiers sont toujours aussi sympas. Continue.
Et on passe un super moment, ah, mais on peut
passe,
le dire.
On passe un très très bon moment. Les routiers sont toujours aussi sympas, continue de se renouveler. Mais ce qui ne change pas, c'est de parler de vous, conductrices et conducteurs routiers. Et nous recevrons, à tes souhaits, Jonathan.
Merci, Sébastien.
Juste avant qu'on accueille notre prochaine invitée, j'ai quand même pas mal de messages, Jonathan, qui me parviennent. Par exemple, j'ai Nicolas qui m'écrit « Coucou à toute l'équipe du 107.7, vous êtes au top comme toujours. Un plaisir d'écouter mes collègues, au plaisir de faire la prochaine émission avec vous. Nicolas Renaud de Delisle-Lavage. PS, je me suis arrêté pour écrire le message. Dites-le bien à Vincent et Jean-Louis. » Voilà. Voilà, mais des messages comme ça, j'en ai plein d'autres. J'ai aussi ce message de Guillaume qui nous a écrit ce soir. Je fais un bonsoir global car vous êtes trop nombreux pour être cités. C'est pas faux. J'ai fait cet après-midi quelques recherches sur Internet, mais je n'ai trouvé aucun site des transports de Lille dans le secteur bordelais. Y a-t-il un projet de s'y établir tôt ou tard ? La bonne soirée, la bonne route à tous. Soyez prudents et on respecte le corridor de sécurité. Il y a des secteurs de Bordeaux ?
Oui.
Ouais.
Ouais.
Il y a un conducteur prêt. Hein, il est prêt. Hein, voilà.
Le moment venu, il le saura, il nous contactera et on l'accueillera avec plaisir.
Et on accueille notre prochaine invitée, Périne.
Oui, alors je crois que Jonathan avait un petit bonjour à faire passer.
Oui, c'est vrai.
Oui, tout à fait.
Parce que Jonathan, il reçoit plein de textos de personnes qui sont à l'écoute du 107.7. Et donc, c'est l'occasion.
Voilà. Donc, notamment, bonjour Virginie. je vois que tu m'écoutes. Donc,
salut Virginie.
On est très, très contents que tu sois sur 107.7. Voilà.
Virginie, écris-nous, parle-nous de Jonathan. On veut tout savoir. Est-ce que tu fais des choses sur lui à ta prochaine pause, radio177.fr, quand vous êtes à l'arrêt, vous cliquez sur la bulle Messenger et sur envoyer un message. Bonsoir Laetitia.
Bonsoir.
Comment ça va ?
Bon, ça va très bien. Oui.
Conductrice routier depuis combien de temps ?
Depuis 10 ans maintenant.
Depuis 10 ans et chez les transports de Lille depuis ?
Depuis 2018, on va dire.
Ouais, depuis 2018. Donc, ce qui. Je suis très nul en maths. Hein.
6 ans.
Voilà, ouais. Ouais. C'est pour ça que je pourrais pas faire conducteur routier ici, parce que je sais que vous avez plein de calculs à faire sur vos temps de conduite.
On va dire qu'on a l'habitude, c'est toujours à peu près les mêmes crédos.
Oui, mais alors moi, j'ai des auditeurs qui ont entendu m'expliquer 50 fois. Il n'y a plus personne, hein, je tiens à le dire. Mais en tout cas, c'est de nuit, de jour, tu conduis ?
Quand il faut. Quand c'est nécessaire.
On aime cette réponse. Qu'est-ce que tu transportes généralement ?
Des produits laitiers principalement, oui.
Ouais. Donc, mesdames, messieurs, si vous pouvez avoir du lait, du fromage, c'est notamment grâce à Laetitia. Oui, j'ai l'habitude de le présenter comme ça et de le dire, parce que c'est important de le rappeler, Périne. Oui ?
Oui. Je ne sais pas où j'en étais, parce que j'étais en train de regarder...
La vidéo ?
La vidéo, oui, tout à fait, que nous venons de tourner.
J'aime bien de faire des surprises comme ça.
Non, mais je suis ravie. Laetitia, moi, je suis contente déjà parce que tu es une fille.
Merci.
Qu'il y a quand même pas beaucoup de filles au volant, de plus en plus peut-être, mais je crois que c'est quoi, 5% Sébastien, des conducteurs qui sont conductrices.
Et même malheureusement, c'est un chiffre qui a eu tendance un petit peu à baisser ces dernières années. On est plutôt maintenant entre les 3 et 4% malheureusement. Hein.
Oui, donc c'est pas énorme. Toi, ça a toujours été ton truc, enfin,
j'ai toujours eu envie, en tout cas, d'être routier, même si ça ne fait que 10 ans, parce qu'au départ, j'ai fait un petit peu comme toutes les filles. Hein. J'ai fait des études, j'ai suivi ce que voulaient mes parents. J'ai passé un BTS action commerciale chez France Télécom. J'avais peut-être pas le droit de le dire.
Bon, c'est pas grave, on s'en fout.
Disons que j'ai été 7 ans dans la téléphonie mobile et après dans d'autres secteurs.
D'accord.
Avant de revenir sur la route.
Et d'y rester.
Voilà.
T'adores ?
Pas dire jusque-là, mais j'aime beaucoup. C'est une grosse partie de ma vie, oui.
Tu fais.
De toute façon, on ne peut pas faire ce métier-là si on ne l'aime pas.
Non, c'est sûr. Parce que tu ne fais pas des courtes distances, tu fais des longues distances.
Je fais des longues distances, oui. Je suis grand routier, donc je pars à la semaine. Ah ouais. Comme mes collègues. Je suis un chauffeur comme les autres.
Tout à fait. Voilà. Et comment ils sont, d'ailleurs, tes collègues mecs avec toi ?
Très sympathiques, certains beaucoup trop. Mais c'est pas grave.
Ouais, bon, ça, c'est la vie. Et ça, c'est la vie, un peu.
Ça, c'est partout. Hein. C'est pas que les routiers.
Bon, en même temps, vaut mieux ça que le contraire.
Voilà.
Oui, voilà. Bon.
Et les filles, entre elles, sont plus solidaires ?
Oh, je dirais que c'est la même chose. Hein.
Ah.
C'est
oui.
La même chose. Après, ça dépend des routières. Hein. Ouais. Il y en a certaines qui sont tellement habituées à rester à l'écart que même quand elles voient une fille descendre du camion, elles n'ont pas le réflexe de venir tout de suite.
Plutôt national, international ?
Les deux.
Les deux. Tu vas où ?
Eh bien, je roule, on va dire, au départ de l'Est de la France, jusqu'en Bretagne. Je peux remonter jusqu'en Hollande et redescendre jusqu'en Italie.
Ça fait quelques kilomètres. Hein, voilà, quelques... T'as déjà compté combien tu faisais de kilomètres à l'année ?
À l'année, non.
Non.
Non, trop, non, beaucoup trop.
Non, non, on regarde sur la semaine après. Voilà.
Alors à la semaine ?
Bah, la semaine, ça peut varier, ça dépend de si je me suis déplacé beaucoup ou pas, entre 1200 et 1850, quelque chose comme ça.
Jonathan, j'avais quand même une question à vous poser parce qu'on parlait justement du lien homme-femme dans le métier du transport. On imagine très clairement qu'une entreprise comme la vôtre est très vigilante sur le respect de chacun.
Oui, évidemment. On a même un devoir, une obligation en tant qu'employeur de veiller à ce qu'il n'y ait pas d'histoire d'harcèlement ou de discrimination. Mmh. Voilà. Et on a toujours, nous, porté une attention particulière depuis de nombreuses années, justement, à toujours ce qui est une égalité homme-femme sur tous les plans, que ce soit sur la rémunération, les promotions. Là-dessus, on fait très attention à ça, et d'autant plus maintenant. Et d'ailleurs, je pense que c'est important de le faire pour justement donner envie aussi aux femmes de venir nous rejoindre dans notre beau métier qu'est le transport routier.
Qu'est-ce qui te plaît le plus sur la route ?
Les rencontres.
Ah, c'est-à-dire ?
Que ce soit les rencontres avec mes collègues ou avec d'autres personnes quand je suis à l'international. Il y a une particularité quand on est routier, c'est qu'où qu'on aille, dès qu'on s'arrête, un autre chauffeur, même si on est entre hommes et femmes, il faut arrêter de voir une si grosse différence là-dedans, il n'y en a pas vraiment. Quelque part, il y a quand même un lien un petit peu familial, un lien d'amitié qui se fait tout de suite.
Tout c'est la communauté, quoi.
Voilà.
Et tu sais, il y a l'image du routier costaud parce qu'il faut porter des trucs et donc les femmes, c'est peut-être pas leur place. On est d'accord, ça n'a rien à voir.
Ça n'a rien à voir.
Ouais.
Et même quand il faut porter des choses, parce que j'ai pas toujours été en citerne, on porte rarement des colis qui fassent plus de 20 kilos parce qu'on n'a pas le droit. De toute façon, la manutention, oui, c'est comme ça.
Oui, c'est pour tout le monde pareil. Ouais, ouais.
Après, un tire-pale, on est tous capables d'en manipuler un. Voilà.
Une belle histoire, moi, je trouve. Moi, une belle histoire. La belle histoire, tu la vois jusqu'au bout d'eau sur la route ?
J'espère, oui.
Ouais.
Jusqu'au bout avec de l'île.
Ah, c'est le beau. Tu passeras la compta après l'émission.
Il y a des. Tu sais, dans les entreprises, on va dire classiques, si je puis dire, il y a des repas de fin d'année, où on se retrouve entre collègues. Est-ce que c'est, par exemple, chez vous, il y a ça chez les transports de l'île ? C'est compliqué de réunir tout le monde quand tu sais que, de toute façon, tu roules 24/24/7/7 ponctuellement.
Voilà, non, c'est compliqué. Hein. Ça arrive ponctuellement, si, tous les ans.
Vous vous croisez sur les parkings, finalement, avec vos collègues ?
La majorité de mes collègues, oui. Après, pour certains, quand même, l'entreprise de Lille, tous les ans, fait des activités de groupe une fois par an en septembre. On ne peut pas tous toujours y participer, mais il y a quand même un effort de fait. Après, c'est le métier qui fait qu'on ne peut pas tous être là en même temps.
Eh bien, un grand merci, Laetitia, d'avoir passé ces quelques minutes avec nous, de partager. On le sent, la passion chevillée au corps pour la route, en tout cas, et le camion. La citerne, ça a toujours été une envie ou tu avais un autre type de camion ?
Ah non, au départ, moi, j'ai démarré en Savoyard, puis en totliner, et puis j'ai fait du camion remorque porte-caisse. Parce que quand on est jeune chauffeur, ça c'est valable pour tout le monde, la citerne au départ, si on ne connaît pas ce milieu-là, on n'y va pas naturellement. Parce qu'en FIMO, on nous dit tous, ah là là, c'est dangereux, il y a des ballons, vous allez vous retourner, si le virage est pris trop vite, trop serré. C'est un risque. Ouais. C'est un risque sur tous les camions, en fait. On ne se rend pas compte que la citerne, c'est vraiment agréable. Moi, depuis que j'ai démarré dans la citerne, j'ai pas du tout la moindre envie de retourner sur un autre type de transport.
Le message est passé, le chef est là.
En tout cas, vous avez une excellente ambassadrice. Hein,
oui, ça fait plaisir. Ouais. Et c'est très bien parce que c'est preuve qu'elle se sent bien chez nous. Et voilà, donc, si elle peut faire venir ses collègues, on la remerciera d'autant plus.
Hey, merci en tout cas, Laetitia. Et nous recevrons également un conducteur routier dans la deuxième heure de cette toute première émission en direct d'une entreprise de transport ici chez les Transports de Lille. À la Ferté-Gaucher en Seine-et-Marne. Périne, je vous rappelle que... Périne, je vous rappelle que notre sondage du soir...
Ah, vous voulez que je donne le sondage ?
Bah oui, je vais
travailler dans une entreprise de transport à l'histoire familiale, est-ce que c'est une condition pour vous ? Vous pouvez voter, rendez-vous, bien sûr, quand vous êtes à l'arrêt sur la page Facebook. Les routiers sont toujours aussi sympas sur le site internet radio177.fr. Il y a un bandeau orange. Vous votez, vous cliquez et vous pouvez aussi nous parler via la bulle bleue Messenger.
Et dans la deuxième heure, nous parlerons actualité du moment avec Jonathan Delisle qui est avec nous en fil rouge. Nous évoquerons aussi le lavage des camions devenu une branche à part entière chez les Transports de Lille. Et enfin, nous parlerons recrutement aussi, mais il est grand temps de retrouver l'infotrafic.
Émission spéciale ce soir puisque c'est une première, toute première dans l'histoire de l'émission. Première émission en direct d'une entreprise de transport avec Sébastien Ponchelet et Périne Martin. Vous êtes toujours et bien accueillis chez les Transports de Lille.
En direct, effectivement, Thibaut, on n'est pas tout seul, on est dans des bureaux. Ben voilà, tout le monde est là avec nous. Je pense que Sébastien, ça te change quand même, ouais, de ne pas être tout seul dans ton studio.
Oui, c'est vrai. Bah, j'ai pas l'habitude. Hein. Ça fait trop de monde autour de moi. Hein.
Ça fait un... C'est comme si on avait un public.
C'est
quoi.
Ça,
c'est,
voilà.
C'est hyper agréable, très sympathique.
Comme on disait au moment de l'ORTF, en direct et en public.
En direct et en public, public, voilà. Alors on va bien sûr continuer à parcourir les coulisses de cette grande entreprise de transport avec plusieurs invités à venir. Sébastien, pour commencer, peut-être retrouvons Jonathan Delisle qui est directeur général des transports de Lille pour un peu d'actualité transport.
Parce que il y en a et les sujets manquent pas en ce moment, on peut le dire. Le dernier en date, Jonathan, ce sont les fameux méga camions qui pourraient faire leur entrée sur le territoire national, c'est-à-dire pour les non initiés qu'actuellement les camions dits classiques, on va dire 44 tonnes, hein, voilà, mais pourraient atteindre, si la France les autorise, les 60 tonnes. La question est simple, pour ou contre et pourquoi?
J'ai pas vraiment d'avis sur la question. On n'est pas vraiment concerté. On est Citerni avant tout. Mais c'est sûr que les méga camions, au niveau des infrastructures en France, on n'est pas forcément prêt, je pense. Au niveau des pouvoirs publics, c'est surtout les problématiques de charge à l'essieu qui posent problème. Donc, je dis pas que ça se fera un jour, mais voilà, c'est pour l'instant, c'est pas dans.
Selon toi, c'est pas possible.
Enfin, c'est pas que c'est pas possible.
En tout cas, par l'État.
Dans certaines villes ou certains villages, on voit bien que les manœuvres sont déjà compliquées à l'heure actuelle. Donc, comment demain des méga camions qui font 25 mètres de long vont pouvoir
passer circuler. Un rond-point, ne serait-ce
que
ça.
Voilà, c'est ça. C'est vrai que dans l'Amérique du Nord ou même dans les pays scandinaves, on a des routes beaucoup plus larges, beaucoup plus longues, donc qui est plus adéquate pour ce type de transport. Mais en France, voilà, je pense qu'il faut faire déjà un travail sur nos infrastructures avant de pouvoir éventuellement tester ces méga camions.
Bah surtout qu'il est quand même beaucoup question de décarbonation. on parle de limiter les rejets de CO2. Bien entendu, c'est côté voiture, mais aussi camion. Est-ce que vous avez déjà décidé de quelle énergie serait prioritaire pour vous, ou finalement est-ce que le mix énergétique, c'est ça la solution?
Oui, oui, tout à fait. Le mix énergétique, ça sera la solution, parce qu'on a plusieurs activités dans le monde du transport. On a de l'international, de la longue distance, du régional, de la distribution, du dernier kilomètre. Donc il y aura de toute manière une énergie pour tout. Et en ce qui nous concerne, nous, on est plutôt sur des métiers zone longue. Donc là, nous, ce sera l'électrique ou l'hydrogène.
Ouais, l'électrique quand même, le tout électrique.
Oui, le tout électrique. Aujourd'hui,
c'est jouable. C'est beaucoup d'investissements, quoi.
Alors, c'est des gros investissements, je vous confirme, déjà sur l'achat du camion lui-même, mais aussi sur toute l'infrastructure, c'est-à-dire les bornes de recharge installées, la VRD qui va avec, le redimensionnement des canalisations d'arrivée électrique. Mmh. Donc, c'est quand même de gros travaux et de gros investissements. Voilà. Après, nous, on a fait le choix du baissant de manière transitoire, puisqu'on sait que d'ici 10, 15, 20 ans, les moteurs thermiques cesseront d'être fabriqués par les constructeurs de poids lourds. Voilà, donc oui, ce sera hydrogène, électricité, où l'autonomie aujourd'hui est peut-être de 500 km, mais on sait que d'ici la fin de la décennie, les constructeurs prévoient d'avoir une autonomie de 700-800 km sur des poids lourds 44 tonnes.
C'est pas un peu lourd, pour pas employer un autre terme, d'avoir une nouvelle réglementation qui sort tous les 6 mois?
C'est l'impression que tu as ou c'est la réalité?
C'est l'impression que ça donne quand même.
C'est une impression et c'est presque la réalité. Effectivement, on est dans un monde qui évolue beaucoup et aujourd'hui, les réglementations, en tout cas dans le domaine du transport, évoluent au même rythme qu'évoluent les technologies d'ailleurs, je pense. Et c'est vrai que nous, on doit quand même faire de gros investissements dans les renouvellements de flotte notamment. Et des fois, on est un petit peu coincé en se disant on n'y va pas, on va peut-être investir dans un type de camion, puis dans 2 ans on va nous dire ce camion-là, du coup, c'est plus bon parce qu'il ne peut plus rouler dans les ZFE, ou parce que voilà, on ne rembourse plus la TICPE, comme d'ailleurs il prévoit de le faire d'ici 2030. Donc c'est vrai que quand on a plusieurs millions d'investissements à faire chaque année, il faut savoir quelle décision on prend et espérer qu'on prenne la bonne, parce qu'il y a quand même une incertitude au niveau français comme au niveau européen d'ailleurs, qui régit de plus en plus le droit français. Donc voilà.
Dernier sujet d'actualité qui va pas vous concerner, vous, pour le coup, mais qui va concerner un autre public du transport. En 2026, c'est pas si loin, les VUL, ces petits camions qui ont le droit de circuler tout le temps et qui ont parfois mauvaise réputation. Enfin bon, bref, passons. Mais devront être obligatoires dans ces VUL, eh bien, des chronotachygraphes, dis-je bien, qui contrôlent le temps de conduite. Est-ce que vous vous dites enfin, est-ce que selon vous, cela pourrait redistribuer un petit peu les cartes dans le transport routier de marchandises? qui, on ne va pas se le cacher, on le sait tous, qui est en difficulté depuis quelques années.
Oui, je pense que c'est une bonne chose parce que clairement, bon, encore une fois, nous, on n'est pas concernés directement, vous l'avez dit, mais c'est une concurrence déloyale pour les transporteurs qui font justement des transports en messagerie, en petits colis, en dernier kilomètre. Et c'est vrai que les VUL permettent de contourner la législation, la RSE, la réglementation sociale européenne qui est en vigueur sur le TRM. Donc, je pense que c'est une bonne chose, même pour la sécurité routière, parce que souvent, on voit au volant de ces véhicules des personnes qui conduisent des fois 20 heures, même plus d'affilée. Donc oui, ça va quand même mieux régencer, mieux réglementer la profession grâce à ça.
Une réaction de... Non, je crois que vous allez réagir, ma chère Périne.
Non, j'étais sur une question plutôt RH, pour le coup, ressources humaines. On a beaucoup parlé des jeunes, certains ont la vocation, d'autres ne l'ont pas. Vous voulez vous monter une école. Il y a une vraie pénurie de conducteurs routiers aujourd'hui. Pourquoi ? Est-ce que c'est parce que les salaires ne sont pas suffisamment élevés ? Parce que le métier est dur ? C'est 100 000 chauffeurs, je crois, qui manquent à l'appel.
Oui,
40 000 en France, 40 000 chauffeurs en France, et on parle de 2 millions pour 2026 sur l'Union européenne.
Sur l'Union européenne au total, voilà. Ouais. Donc, il y a plusieurs explications. Il y a déjà la pyramide des âges. En fait, avant, les conducteurs routiers, la plupart, on avait automatiquement son permis quand on quittait l'armée. Donc, en fait, il y avait de l'activité économique et en plus il y avait une facilité pour les personnes d'obtenir le permis super lourd.
Grâce au service militaire.
Au service militaire. On le sait depuis 20 ans, plus de 20 ans, il s'est arrêté. Donc, et en plus, toutes ces personnes-là qui ont eu leur permis dans les années 70-80, aujourd'hui partent en retraite. Donc on a beaucoup plus de départs en retraite que de jeunes qui arrivent sur la place. Et donc de ce fait, ça crée une pénurie qui va continuer encore de s'aggraver d'après les prévisions jusqu'à la fin de la décennie minimum. Donc après, il y a des solutions. La profession y travaille pour redorer un petit peu l'image du métier. Parce que à tort, malheureusement, le métier est encore très mal vu dans l'opinion publique. Et notamment à cause de certains médias qui font rien pour...
Pas nous.
Voilà, heureusement, et c'est pour ça que je vous en remercie, pas vous. Mais c'est vrai qu'on voit à la télé, on dit, encore un camion responsable d'un accident de la route. Alors qu'en fait, les camions sont très peu responsables des accidents de la route.
5%.
Alors, certes, quand il y en a un, ça peut être plus grave.
C'est seulement 5%.
C'est 5%. On dit qu'il pollue, mais au final, je pense qu'avec toutes les normes aujourd'hui qu'il y a et tous les efforts qui ont été faits au niveau des constructeurs, un poids lourd aujourd'hui consomme moins qu'une voiture. Il y a quand même beaucoup d'efforts de fait à ce niveau-là. Et puis un camion, c'est gros, ça roule pas, ça embête les automobilistes. Mais en même temps, on s'est bien rendu compte durant le Covid qu'on était bien content de les avoir, nos routiers et nos camions. Donc, je pense qu'il faut redorer l'image de cette profession. Et nous, en tout cas, ce qu'on fait vous l'avez dit, l'école de formation qu'on va mettre en place. Et puis, c'est aussi faire un travail de terrain, aller dans les écoles, dans les lycées, faire comme on a fait ce week-end à Épernay sur des manifestations de camions, des choses comme ça, sur les...
Oui, non, je cherchais Sébastien
parce qu'on ne sait toujours pas ce qui s'est passé à Épernay.
Il va venir vous le raconter après.
Non, merci Jonathan, reste bien avec nous jusqu'à 23h. On va avoir d'autres invités, mais je partage ce message de Dani Dan RC. Voilà, c'est son nom, je fais comme je peux. Et c'est la toute première fois qu'il nous écrit dans l'émission ce soir. Bonsoir et merci pour vos actions. Je voudrais remercier les Transports de Lille pour la confiance qu'ils octroient à leurs employés, que ce soit dans les bureaux ou les section conducteur, un grand positif pour grand point positif pour cette entreprise familiale.
Merci plaisir. Beaucoup Dan.
J'en ai d'autres comme ça. Restez bientôt vous pourrez plus vous allez
c'est
décoller.
Les chevilles, quoi, ça passera plus.
Au bout d'un moment, ça passe plus En tout cas, reste bien avec nous Jonathan, d'autres invités, je le disais à venir. Radio 177.fr quand vous êtes à l'arrêt pour et vous cliquez sur la bulle bleue Messenger et sur envoyer un message pour nous écrire directement dans ce studio et n'hésitez pas à aller voter sur notre sondage disponible sur la page Facebook Les routiers sont toujours aussi sympas. On vous parle beaucoup de Sébastien depuis tout à l'heure. Vous pouvez aller le retrouver en vidéo sur la page Facebook de l'émission. Les routiers sont toujours aussi sympas. Il paraît qu'il passe hyper bien la caméra. Thibaut, c'est à vous.
Merci, on vous retrouve dans quelques instants après le trafic.
Nous avons, je récapitule, un parc de camions, des ateliers pour les entretenir et les réparer. On a des conductrices et des conducteurs qui roulent avec leurs fidèles destriers.
Mais à force de kilomètres, il faut aussi les laver, car ils sont les premières représentations de l'entreprise, finalement, ces ensembles routiers. Et au transport de Lille, on a décidé d'en faire une nouvelle branche d'activité, Périne.
Voilà. Et c'est Vincent Delisle qui est en charge de cette nouvelle activité. Vincent, bonsoir, je vais vous passer mon micro dans un instant, parce que voilà, il faut que je me taise. mais alors, bien sûr, on a envie de savoir, alors vous, vous êtes qui? Frangin, cousin? Dites-nous tout.
Alors moi, je suis qui? Je suis donc Vincent Delisle, je suis directeur technique de la boîte.
Vincent. Voilà.
Et donc je suis le cousin de mon cousin, le neveu de mon oncle. Non, je rigole. Je vais pas faire comme mon frère, hein, on va innover.
Ah, le frère de Marwan.
De Marion. Marion. Alors Marwan, on le connaît pas encore. Oui. Alors
désolé Jean-Louis. Alors désolé Jean-Louis, vous apprenez des choses sur votre famille ce soir, je tiens à vous le dire. Voilà. Voilà. Alors Périne Martin, vous n'étiez pas encore dans le bêtisier de cette émission, c'est fait. Voilà.
Je
c'est peut-être
fatiguée.
Un bébé de Lille. Encore inconnu. Ouais. Et peut-être carrossier. Voilà.
Johan, faut qu'on parle.
Donc, Marien, c'est mon frère, Jonathan, mon cousin, et Jean-Louis, mon oncle, qui m'attend au tournant d'ailleurs, parce qu'il m'a dit t'es un peu trop joyeux. Et donc, il m'attend
au tournant.
Pour ma réplique.
Ouais.
Voilà.
La réplique.
Donc, je sais pas si j'enchaîne directement sur les stations de lavage, mais donc, on va enchaîner, non, puisque Périne lit son document, mais Périne, elle rame
non,
un
mais
peu.
Je, en fait, non, pardon, mais je trouvais que ça faisait beaucoup d'hommes de Lille. Je me demandais où sont les femmes de Lille.
Alors, pour l'instant, elles arrivent, ouais.
Non, mais voilà.
Mais pour moi, c'est pas d'actualité encore. Hein, Moi, j'ai un bébé de Lille qui va, qui casse ses dents.
Voilà, ça suffit.
Voilà, ça suffit.
Un garçon aussi.
Garçon. Ah,
okay. En fait, dans la famille, Jean-Louis, vous faites que les garçons. Voilà. Oui. Oui, on est.
Je viens de dire, on essaye.
Alors, on peut vite comprendre la nécessité d'avoir ses propres stations de lavage quand il y a autant de camions. Mais quel a été le constat ou l'origine de l'idée d'en faire une branche à part et finalement ouverte aussi aux camions des autres entreprises?
Alors, l'idée première, donc c'est Jean-Louis et puis Jonathan aussi qui ont eu l'idée de faire la première station de lavage pour laver les intérieurs des cuves, puisque notre travail de base, donc c'est citernier, donc on a un intérêt à laver pendant le transport, donc on charge, on décharge et puis après on lave quotidiennement. Donc ça, c'était déjà l'intérêt du groupe. Et puis après, on a développé petit à petit justement les stations de lavage. Je suis arrivé il y a 6 ans dans le groupe en tant que laveur pour commencer, pour apprendre le métier. Et puis comme je suis j'ai pas mal d'idées, on va dire. J'ai proposé à mon cousin plusieurs choses où justement j'étais assez moteur et on va dire je peux me permettre d'initier. Enfin, j'ai initié, on va dire le développement des stations de lavage parce que j'ai voulu mettre des choses en place et développer cette activité-là qui pour le moment fait bien ses preuves, je pense. Et donc il y a 4 ans, il y a eu on avait 4 stations de lavage. À l'heure actuelle, on en a 24, donc à travers différentes acquisitions ou des constructions neuves, soit des développements avec un intérêt pour nos camions ou clientèle.
Comment ça se passe pour laver un camion? Il y a différents types de camions, il y a différents types de lavage en fonction de ces camions.
Alors comment ça se passe pour laver les camions? Donc c'est après.
C'est les rouleaux comme.
C'est très simple.
Voitures.
Donc il y a le lavage extérieur. Donc là où on lave tous les ensembles, peu importe du gabarit. Donc c'est soit avec des portiques ou soit avec des lances haute pression. Sébastien.
Oui, hein, oui, oui, j'ai retenu la leçon. Voilà. Il m'a fait une scène juste avant l'émission, je vous raconte que ça.
Parce que tu as dit un mot interdit, c'est
j'ai
tout
dit, un mot interdit.
Une marque.
Voilà, une marque interdite, voilà en fait. Voilà.
Donc, donc il y a le lavage extérieur, où là, on lave vraiment tous les ensembles, sur toutes nos stations de lavage. Et ensuite, on lave les intérieurs de citernes. C'est là où on est vraiment spécifique. Où là, on peut laver tout type de produits transportés, que ça soit industriel, alimentaire ou chimique. C'est vraiment un secteur d'activité qui est, on va dire, un métier de niche où il faut.
C'est hyper spécifique.
C'est très très spécifique.
Très normé, très.
Très normé, ouais. Où on a une formation qui est très approfondie pour nos opérateurs de lavage et en termes de qualité avec beaucoup d'exigences.
Et ça met du temps de laver un camion? Là aussi, alors, ça dépend des opérations effectuées.
Oui, exactement. Ça dépend des produits. Ça dépend donc déjà du produit transporté, de la quantité qui reste dans la citerne. Et voilà. Et puis après aussi de la procédure de lavage qu'on va mettre en place, parce qu'on a des chargeurs qui nous imposent des cahiers des charges à respecter. Et donc, à travers ça, on a une durée de lavage qui augmente en fonction des cahiers des charges.
On a découvert tout à l'heure le camion à l'oléosan et qui va transporter de l'oléosan. Là, le nettoyage aussi, j'imagine, spécifique. Ouais. Est-ce qu'il y a des réglementations qui sont établies dans le code, enfin, je sais pas, dans le...
Donc, on a bien évidemment de la réglementation, donc en termes de qualité, en fonction du dernier produit transporté ou en fonction du chargeur. Et bien évidemment, donc ça peut être par exemple une citerne qui est bien séchée, où on va aussi effectuer différents tests, des tests allergènes, des tests millipores, des tests de turbidité. Enfin, on a toute une sorte de tests qui est justement pointu pour vérifier la qualité du lavage. Et après, on peut appliquer aussi différentes procédures, soit de réchauffage vapeur, soit de sanitisation. Donc, fait partie du lavage.
J'ai une autre question qui me brûle les lèvres. Je suis en train de penser à Noël. Vous savez, au repas de Noël. Comment ça se passe, les repas de Noël chez les transports de Lille? On parle des transports de Lille pendant le repas ou comment ça se passe?
Ça déborde, oui, des fois. Alors, au début, ça va calmement. On peut aborder différents sujets, mais...
Mais est-ce qu'à un moment donné, il y a la dinde qui traverse le salon?
Alors, il y a la dinde, il y a les coupes de champagne, à travers différentes coupes de champagne.
Alors, excuse-moi, là, tu m'en... Jamais quand vous conduisez et toujours quand, avec modération.
On parle du repas de Noël.
Voilà, c'est ça. Voilà. Non, mais vous arrivez à stopper un peu?
À décrocher?
Non, on n'y arrive pas.
Ouais. L'amour du métier.
Non, c'est la passion, l'amour du métier. Et puis il y a tellement de choses à faire, tellement de choses à dire.
Justement, tu me tends la perche, ça va pile poil avec ma question. Parce que là, on est entre nous, il n'y a personne qui écoute, hein, je te rassure. Il n'y a absolument personne qui nous écoute. Il y a d'autres projets pour les transports de Lille ou...
Je ne suis pas garanti que personne d'autre nous écoute.
Non, il n'y a personne.
Mais oui, il y a des projets, bien sûr.
De nouvelles activités, c'est ça que tu veux dire?
Oui, mais ils ont plein d'idées à la minute. Oui.
Je le fatigue, Jonathan. Et pas que lui, d'ailleurs.
Est-ce que vous avez... Il n'y a personne qui... Si. Ah, hashtag Épernay.
Bon, oui. Voilà, c'est hashtag Épernay.
Bon, en tout cas, merci Vincent de t'être prêté au jeu. Bon, tu l'avais déjà fait par téléphone dans l'émission. Et on se rencontre enfin aussi. Eh bien, un grand merci d'avoir passé ces quelques minutes avec nous. Parce qu'on va avoir d'autres invités encore dans cette prochaine demi-heure. On garde évidemment Jonathan, mais Vincent, on va le retrouver forcément d'ici la fin de cette émission également. Encore une demi-heure à passer ensemble dans Les Routiers sont toujours aussi sympas en direct des transports de Lille. Et notre prochain invité est un routier sympa aussi. Luc sera avec nous juste après l'infotrafic. Virginie qui nous a écrit ce soir pour la première fois de retour dans cette belle entreprise avec une vraie joie. Bonne soirée à tous, signé Virginie Hamon. Voilà pour ce message passé. On en a quelques-uns des comme ça depuis le début de soirée. Bah oui, parce qu'en plus notre émission sans interviewer des conductrices et conducteurs routiers, ce ne serait pas notre émission. Bonsoir Luc.
Bonsoir.
Bon alors déjà c'est quelqu'un de très bien parce qu'il est ch'ti. Voilà.
Ah, comme
donc déjà en fait on avait déjà tout résumé dans cette interview.
Voilà, c'est fait.
Voilà.
Merci, au revoir.
Alors, secteur de Maubeuge, tu es conducteur routier depuis combien de temps?
Depuis 10 ans.
Depuis 10 ans et chez les transports de Lille?
Alors, j'ai commencé il y a 5 ans en tant que saisonnier en équipe.
Les fameux saisonniers.
Donc, j'ai commencé et au bout de 9 mois, malheureusement, la campagne s'est terminée. Donc, il n'y avait plus de place. Bon, voilà. J'ai fait d'autres transports, j'ai découvert la pulvée. Et puis là, il y a un an et demi, j'ai eu l'occasion et la joie de revenir parmi la grande famille de Lille.
Et il y a 10 ans, qu'est-ce qui a fait que tu es devenu routier?
J'étais commerçant et j'ai eu une mauvaise aventure, ce qui arrive à mon compte. Donc il a fallu prendre une décision et c'était vite fait, bien fait.
Et pourquoi du coup le métier de conducteur
routier? Ça m'a toujours attiré. Les camions m'ont toujours attiré. J'ai toujours aimé rouler. J'ai toujours aimé découvrir du pays. Donc c'était l'occasion d'amener les camions plus découvrir du paysage et la belle région, les belles régions de France.
Tu fais quoi? Du régional, du national
National, international.
Ah oui, aussi. Donc pas que la France.
Ouais. Non, on voyage beaucoup.
Tu vas où?
Belgique, Hollande, après dans le sud un peu.
D'accord.
Tu transportes quoi, toi?
Alors, je suis en pulvée, donc matière pulvérulente, farine, sucre. semoule.
Alimentaire, donc.
Alimentaire, c'est ça.
Alors, farine, il m'en faut un petit peu pour mes crêpes de demain, de si tu peux m'enfiler. Moi, je ne suis pas contre. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé nourriture dans cette émission. Nous disions tout à l'heure que le camion est la première représentation de l'entreprise parce que c'est lui qui arrive. Mais toi, ainsi que tous tes collègues conductrices, conducteurs routiers, bah, finalement, vous êtes la deuxième représentation. C'est aussi une sacrée responsabilité.
Tout à fait, on doit véhiculer l'image de la société avec le véhicule. Donc on doit être irréprochable, on essaie de faire notre travail et être irréprochable dans tout ce qu'on fait et ce qu'on fait vis-à-vis des clientes, en clientèle. Ouais.
Et toi, tu es d'autant plus exemplaire que tu t'occupes des petits nouveaux qui arrivent.
Oui, j'ai eu la chance que la maison de Lille me demande de faut être chauffeur référent. Donc de m'occuper des jeunes recrues, ceux qui n'ont jamais touché une pulvée, de les accompagner pendant 8 jours pour leur montrer et découvrir le métier.
Jonathan, c'est important cette transmission ?
Oui, tout à fait. On est sur des métiers très techniques, très spécifiques. Hein. C'est une niche, hein, le métier de la pulvée roulant. Et c'est 1%, hein, même pas des transports en France. Et donc, de ce fait, il y a tout un tas de manipulations de la citerne pour les chargements et les déchargements. Surtout, faut manipuler des vannes, jouer avec des pressions. Et donc, voilà, on peut pas donner ça au premier venu pour dépoter une citerne. Donc, effectivement, il y a nécessairement besoin d'au moins 8 jours avec un tuteur comme Luc. Et puis après, 8 jours avec un formateur qui lui va lui apprendre vraiment plus globalement l'entreprise, comment on fonctionne, etc., etc.
Donc Luc est en quelque sorte un parrain, quoi. Parrain, oui, de plusieurs conducteurs de l'entreprise.
C'est ça, tout
on
à
peut
fait.
Dire ça comme ça.
C'est même nos ambassadeurs, je dirais. C'est eux qui font découvrir le métier, vraiment le métier pur, opérationnel, aux nouveaux conducteurs.
Tiens, si on parlait un peu partage de la route. Ah, ça fait rire tous les conducteurs routiers que j'interroge, ça les fait tous rire, je comprends pas pourquoi. Qu'est-ce qui t'agace le plus comme comportement sur la route ?
C'est que les gens nous coupent la route. Déjà, comme hier, on m'a doublé, puis on a vu que c'était la sortie juste devant moi, on m'a coupé. Oui. Heureusement, j'étais à vide.
Ah oui,
heureusement, j'étais à vide, et puis que maintenant, on avait les véhicules adaptés avec bourreur de capteurs. Et qui réagissent aussi vite que nous. Donc ça nous aide aussi, parce qu'on a des avertisseurs sonores, ça nous aide énormément aussi.
Ça, Jonathan, j'imagine que... On en parlera peut-être d'ailleurs avec notre invité Stéphane, qui est le lien avec les conducteurs routiers, mais ça, le partage de la route, on sent que chez les conductrices et conducteurs routiers, c'est un véritable sujet, parce que tous nous disent qu'ils se dégradent, en fait. C'est le respect du code de la route, le respect de la conductrice et du conducteur routier se dégrade en permanence sur la route.
C'est malheureusement, ça me surprend pas. Hein. On est dans une société où tout le monde est toujours de plus en plus pressé, de plus en plus tendu, et voilà, les gens s'énervent et s'emportent facilement. Ben, les camions, forcément, ça doit respecter tout un tas d'obligations, des vitesses, et donc de ce fait, ce sont des professionnels de la route, hein, et les automobilistes, il y a rien qui les régente, et ils se croient des fois un peu tout permis, hein, et c'est toujours le poids lourd qui est tenu pour responsable en cas d'accident, malheureusement.
Et puis je pense que l'automobiliste se rend pas compte de la pression de conduire un tel gabarit et de ce que ça induit justement de réflexes.
Forcément, les temps de freinage sont beaucoup plus longs. Un camion à charge, c'est 44 tonnes, hein, donc quand vous devez freiner 44 tonnes par rapport à une voiture qui fait 2 tonnes ou 1 tonne, c'est pas la même distance, donc il doit être d'autant plus vigilant, notamment déjà pour lui, mais aussi surtout par les autres usagers, et notamment certains automobilistes qui sont, faut le dire, inconscient.
Alors Luc, tu vas rester un instant avec nous, mais tu vas passer ton micro à notre prochain invité. Luc, reste pas bien loin, parce que pour que tu restes en contact avec l'entreprise quand tu es sur la route, il y a notamment le responsable d'exploitation, et c'est le rôle de Stéphane Videman au sein des Transports de Lille. Bonsoir Stéphane.
Bonsoir à tous.
Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Alors toi aussi, tu es quelqu'un de bien, parce que tu es axonné dans le secteur de Château-Thierry. J'imagine qu'il faut quand même dormir un petit peu, et que c'est pas toi qui va évidemment prendre tous les appels de toutes les conductrices et conducteurs routiers. Ça se répartit comment le travail de responsable d'exploitation ?
Non, c'est un travail d'équipe avant tout. De toute façon, le transport, c'est un travail d'équipe. Ça part du conducteur à l'exploitant, à l'opératrice de saisie. C'est vraiment un travail d'équipe. Et plus qu'un travail, je pense qu'avant tout, c'est une passion. Parce que s'il faut des personnes passionnées pour endurer une telle fatigue, tant de stress, tant d'énervement, c'est un travail difficile. Mais en fait, comme principalement ici, chez les Transports de Lille, on est beaucoup de passionnés. ça passe tout seul quand je vois le monde qui a ce soir alors qu'il est il n'y a que des passionnés. Alors je voulais juste rajouter un petit truc, hein, c'est normal, fallait que je le dise, je l'avais préparé. On est dans un groupe Transport de Lille, on parle de Citernier et de Pulvey, mais le transport c'est aussi la logistique, même si je fais un peu râler mes collègues, et c'est la palette,
on en a
c'est
parlé
le transport conditionné
on en a
et on est là.
On a parlé de la logistique tout à l'heure, on ne vous avait pas oublié, mais finalement vous êtes un peu lien entre tous les services quelque part.
Voilà, c'est ça, on... en fait on est le... dans le groupe, on est les Caliméros, le petit... Le petit canard noir. On a une activité complètement différente du restant du groupe. On n'a pas les mêmes besoins, on n'a pas le même secteur d'activité. Et en même temps, merci pour le mouchoir.
Il y a Vincent Delisle qui tend la boîte de mouchoirs.
Et en même temps, on, voilà, on crée le lien entre tous les services parce qu'on va prendre l'exemple des stations de lavage qui sont développées. Ces belles stations de lavage, ce beau service ne pourrait pas fonctionner sans qu'on l'approvisionne. Tous leurs besoins.
Ah, une petite réponse de la part de Vincent Delisle qui est juste à côté, évidemment. Cette émission, je ne sais pas comment elle va se terminer.
Effectivement, je ne peux que rebondir sur ça. C'est... Donc, je remercie grandement les transports logistiques, avec Stéphane et Antoine, puis tous leurs conducteurs. Mais grâce à nous, grâce à Delisle Lavage, ils ont des camions propres sur l'ensemble du réseau routier français. On est répartis sur toute la France. On peut laver tous les extérieurs et ça, à un prix très avantageux.
Perrine, je pense qu'il faudrait qu'on parte très vite après la fin de cette émission.
Je crois qu'on va les laisser en famille.
Voilà. C'est ce que...
Nos camions sont propres parce qu'on emmène le savon et tout ce qui fait fonctionner les stations de lavage.
Alors, plus sérieusement, quelles sont les urgences que doit gérer un responsable d'exploitation ?
Donc, on va dire que c'est une triangulaire. L'exploitation en général, le responsable d'exploitation. À la première pointe du triangle, il y a les clients. Il faut satisfaire toutes les demandes de clients qui sont de plus en plus urgentes. Et les clients sont de plus en plus exigeants. On a de moins en moins de délais. Ensuite, sur l'autre pointe du triangle, on va dire qu'il y a les conducteurs. Il faut savoir gérer, faire un petit peu de social aussi, comprendre leurs problématiques, leurs fatigues, leurs problèmes personnels. Ils ne rentrent pas de la semaine à la maison. Il y a toujours des choses à gérer à la maison. Et le troisième point du triangle, c'est l'entreprise. Il faut réussir à satisfaire les projets de l'entreprise. Et le centre de tout ça, c'est pas toujours facile.
Luc, merci Stéphane. Luc, peut-être tu as justement une dernière question. Je pense que c'est important de savoir qu'on a toujours quelqu'un de jour comme de nuit qui peut être joignable dans le métier que vous faites. Ça paraît une porte enfoncée ce que je raconte, mais c'est peut-être pas forcément une évidence pour tous nos auditeurs.
Si, c'est très bien parce qu'on peut avoir n'importe quoi, arriver chez un client qui a un problème. Un problème de référence ou autre.
Ou même toi directement.
Ou j'ai un problème de personnel, j'appelle directement les services d'astreinte. Et puis voilà, on a un service d'astreinte aussi bien en exploitation qu'en mécanique.
Sur le 177 aussi, il y a l'astreinte. Hein.
Oui.
Je tiens à le dire.
Vincent, il faut qu'on t'entende. Qu'est-ce que tu dis, Vincent, Vincent Delisle ?
C'est une petite note en plus pour Sébastien, notre responsable de parc, qui gère justement l'équipe parc, et entre autres l'astreinte parc.
Mais il dort quand ?
D'une main de maître.
Mais il dort quand, du coup, ce monsieur ?
Ça, c'est l'amour du maillot.
À Épernay.
Mais faut pas le dire à Hélène.
Je ne sais pas qui est Hélène. Je sens que... Ah, bonjour Hélène, trop tard. Désolée Hélène. Et Hélène était dans le public. Ça passe encore une vitesse folle cette histoire parce que je suis encore en retard pour le point trafic, évidemment. Tiens, ça vous dirait de devenir conducteur routier chez les transports de Lille ?
Alors moi, j'ai déjà conduit un camion.
Oui, mais pas chez les transports de Lille.
Non, c'était sur un parking.
C'était sur un parking. Oui, voilà. Et pour tout savoir, rendez-vous juste après l'infotrafic, Thibaut.
Ouais, on vous retrouve dans un instant pour le dernier quart d'heure de l'émission. Et déjà les dernières minutes de cette émission spéciale en direct d'une entreprise de transport avec Sébastien et Perrine en direct des transports de Lille.
Et qu'est-ce qu'ils sont dissipés ? Je suis obligé de les rappeler à l'ordre à chaque début de point trafic, chaque fin de point trafic. Enfin, vous m'avez compris. Mais on adore. On passe vraiment un excellent moment ici chez les transports de Lille. Et avant de recevoir notre prochaine invité, travailler dans une entreprise de transport à l'histoire familiale, est-ce une condition pour vous ?
Les routiers sont toujours aussi sympas. Le sondage.
C'était effectivement notre sondage de ce soir. Allez, roulement de tambour. Quel est le résultat? Oui, si j'y arrive, parce qu'effectivement, j'ai trois mains gauches. Je vais aller retrouver le résultat. Ça, vous avez l'habitude. Et vous êtes 67,6% à nous dire que oui, c'est une condition pour vous que de travailler dans une entreprise de transport, qu'elle ait une belle histoire familiale. Bonsoir, Vincent Moret.
Bonsoir.
Directeur des ressources humaines. Et là, il se dit, qu'est-ce qu'il va me poser comme question en lien avec ce sondage? 67,6% nous disent que cela pourrait être une condition d'embauche. Et même si nous avons compris que la majorité des salariés qui, une fois sont arrivés chez les transports de Lille, et ben, une fois qu'ils ont un pied dedans, ben, ils y restent. Mais malgré tout, vous recherchez encore des salariés.
Oui, alors on recherche tout le temps et sur toutes les régions de France. C'est un petit peu la rançon du succès. Notre implantation qui maintenant est nationale. On avait très peu de dépôts et puis on s'est agrandi. Et maintenant, on est présent partout, donc on recherche un petit peu partout, tout le temps. Principalement sur la pyramide des âges, il faut quand même l'avouer, on a quand même beaucoup plus de départs en retraite que de démissions dans le groupe.
Mmh. 67,6% qui nous disent que c'est une...
Je ne suis pas surpris.
Ça ne vous surprend pas?
Non, pas du tout. C'est aussi un peu ce qui... on sent ce besoin-là des salariés, des candidats lorsqu'ils viennent au recrutement, ils recherchent ce côté-là aussi. Alors aujourd'hui, on est à mi-chemin. On est un groupe familial, c'est-à-dire qu'on a quand même une taille imposante, mais on est de plus en plus nombreux, donc on essaie de garder le côté familial, et on l'a vu ce soir avec les noms de famille qui sont succédés au micro, mais aujourd'hui on a une taille plus industrielle.
On parle d'une flotte de 1100 camions et quelques, hein, Jonathan, et combien de salariés au sein du groupe?
Un peu plus de 1500, je me retourne vers ma responsable RH qui connaît tous les chiffres par cœur. Et 1552, elle
bien
me dit.
Sûr. Donc,
bravo. Voilà.
Elle est là, la responsable. Conducteur, conductrice, mais pas que, en fait. Il y a aussi des jobs administratifs, de bureaux, quel type de profil, finalement, vous recherchez?
Entre le moment où je suis rentré dans l'entreprise et maintenant, je dirais qu'aujourd'hui, on a quasiment tous les métiers qui peuvent se trouver dans n'importe quelle entreprise. On a des acheteurs, on a des exploitants. Alors, on a les métiers liés au transport, bien sûr, dont on a déjà parlé, qui se sont succédés derrière le micro. Mais on embauche des laveurs, on a des assistantes de gestion, des commerciaux, voilà. Donc,
Oui, parce que c'est important, on en parlait avec Perrine, parce que c'est important aussi de mettre en lumière, on va peut-être pas dire les petites mains, mais ces mains qui travaillent dans l'ombre. Vous parlez d'assistantes de gestion, on pense à la comptabilité.
Là, on est dans des bureaux, par exemple, oui. Je ne sais pas combien il y a de postes, j'en parlais avec Pauline tout à l'heure, il y a 17 personnes, ne serait-ce que sur cet espace, plus 6 là-bas, plus 8, ça fait du monde, quoi.
Fait du monde. On a un peu plus de 250 sédentaires. Je me retourne vers
sédentaires, oui, c'est pas mal.
Ouais, on est sur les sédentaires. Il y a les roulants, les sédentaires, et voilà.
Ouais,
et vraiment, maintenant, on a toute la palette des métiers possibles. Ah, je rejoins Vincent Delis, effectivement, des informaticiens, on a tout. On a des chargés de communication qui nous surveillent d'ailleurs en ce moment.
On a un peu mis le Bronx côté informatique aujourd'hui, je tiens à vous le dire, mais on a embêté tout le monde cet après-midi.
Pour nous brancher nos studios.
Pour brancher le studio. Dernière question, quand même, avant qu'on passe la parole à notre toute dernière invitée de ce soir. Je voulais vous demander, est-ce qu'en 2024, est-ce qu'on ne chercherait pas plutôt un savoir-être qu'un savoir-faire?
Alors, je suis rentré dans le groupe, Jean-Louis m'a fait confiance en 2003, et depuis cette époque-là, je me concentre uniquement sur le savoir-être.
J'étais très content d'entendre cette réponse, je m'y attendais un petit peu en fait.
L'expérience c'est une chose, mais les savoir-faire, on va dire c'est le côté technique, c'est facile à trouver, mais l'envie de travailler et l'attitude au travail avec les collègues, avec la hiérarchie, c'est le plus important.
En tout cas, nous on s'est rendu compte qu'au sein de cette entreprise, il y a quand même une bonne ambiance, on sent que il y a une belle cohésion, quoi.
Voilà, vous avez les meilleurs. Moi je voulais juste remercier. Et je pense que c'est peut-être la première fois dans votre émission. Vous avez tout à l'heure cité Marc Marchand, qui est un retraité chez nous et qui nous écoute. Je voulais juste signaler qu'il avait pris sa retraite au Cap-Vert. Donc il nous écoute du Cap-Vert.
Du Cap-Vert, voilà.
Je ne suis pas sûr que vous aviez deux auditeurs du Cap-Vert.
Alors, pas encore. On avait l'Amérique du Nord, l'Afrique du Nord, l'Europe de l'Est, mais on n'avait pas encore eu le Cap-Vert. Et je suis très content de savoir qu'il nous écoute au bord de la plage. On veut la photo.
Et j'ai une dernière demande. Oui. voilà, on RH un jour, RH toujours. Hein. Oui. On recherche un laveur sur le site de Dissay, donc à côté de Poitiers. Okay. Donc voilà, petite annonce
justement,
gratuite.
Je voulais justement poser la question, si on veut postuler chez les transports de Lille, on passe par où?
Recrutement. Oui. Le mot recrutement, arrobase, de Lille, D-E-L-I-S-L-E, tiré du 6, SA.com.
Parfait, merci.
Et vous aurez une réponse.
Déjà un grand merci, Jonathan, de nous avoir reçus ici. J'espère que vous avez passé un bon moment.
Très, très, très bon moment. Et puis merci à vous pour ce nouveau concept et d'avoir pensé à nous pour votre première. En tout cas, on est très fiers, on est très, très heureux. Ça s'est très bien déroulé. Je pense que toute l'équipe présente ici est satisfaite aussi. On a passé un très bon moment, comme on a l'habitude d'en passer. Donc, un grand merci à vous également.
Alors, merci de nous avoir donc accueillis ici, à la Ferté-Gaucher en Seine-et-Marne, et de vous être prêté à cette première pour nous. J'espère que... et puis un grand merci aussi pour tous nos auditeurs. J'aurai 2-3 messages, mais je les donnerai très vite. Merci aussi à tous nos invités de ce soir qui sont encore là pour la plupart. Et merci surtout, mesdames, messieurs, à Manon Grapillard, directrice de la communication chez les Transports de Lille. Bonsoir, Manon.
Bonsoir.
Merci beaucoup parce qu'en fait, eh bien, on parlait justement des petites mains dans les petites mains dans les coulisses. Et c'est grâce à vous que cette émission a pu se réaliser ici. On en a passé du temps ensemble, hein, par mail.
Tout à fait, ouais. Des échanges. Beaucoup d'échanges ensemble, mais c'était un plaisir de vous recevoir, plaisir partagé pour le coup. Merci beaucoup à vous. Et c'est un honneur pour nous d'avoir été les premiers, surtout transporteurs, à faire partie de cette émission. Donc merci beaucoup.
Et ben, un grand merci, Manon. Voilà, une belle ambiance ce soir. Ma chère Perrine, un grand merci. Oui, bien sûr, Manon.
Je veux juste ajouter quelque chose. On produit du super contenu sur nos réseaux sociaux. Donc suivez-nous, Groupe de Lille et de Lille Lavage sur nos réseaux sociaux. Ouais, merci beaucoup. Ouais.
Mais avec grand plaisir. Ma chère Perrine, un très, très grand merci.
Mais avec grand bonheur. À bientôt.
Voilà, à bientôt. Je voulais quand même donner l'un de ces deux messages parce que je vous parlais tout à l'heure de JC qui a 15 ans et qui nous écoutait d'ailleurs ce soir. Bonsoir les loups, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel, je vous écoute depuis tout à l'heure et je trouve ça génial cette interview dans une entreprise. Ça permet de bien la découvrir et c'est hyper intéressant. 212 au Comtoise et hashtag respectons les routiers et les patrouilleurs. Julien, que je connais très bien, Julien qui nous a écrit allez Paris pour monsieur Victor du Bourguignon. Ça c'est a priori un petit message codé, mais je ne sais pas. Monsieur Victor, mais si Victor, on connaît Victor. Victor, voilà, coucou Victor. Donc de la part de Julien, et Julien qu'on connaît bien parce que Julien il a également, je me souviens de Julien, c'est lui il me semble, Jonathan, vous allez me confirmer,
c'est ça.
Qui est très mobilisé dans la lutte contre le cancer
effectivement, avec
Côte d'Or,
voilà,
en Côte d'Or,
tous les deux, ouais, Julien et François.
Oui, je m'en souviens très bien, Julien que j'avais eu le plaisir de recevoir dans cette émission. D'autres messages qui m'étaient parvenus très rapidement, Xavier, bonsoir, les automobilistes devraient avoir obligation de faire un stage d'une semaine en tant que passager en poids lourd pour valider leur permis B. C'est pas totalement c'est pas totalement déconnant.
Et pourquoi pas,
oui, bah mais ouais, ça approuve là, hein,
bah oui, c'est forcément une bonne idée, hein.
Oui, mais on aime bien l'idée aussi. Je vais pas avoir
deux jours, oui, peut-être pas 8 jours, mais
si 8 jours, je pense que c'est utile. si vraiment j'insiste, je fais de la route aussi, hein. J'ai d'autres messages mais j'aurai pas le temps de les donner parce que j'ai déjà très fortement dépassé. Je vais remercier Marielle, Hervé et Thibaut. Très belle soirée à tous les trois.
Bonsoir. À bientôt.
À bientôt. Bonsoir Thibaut.
Bonsoir à Seb. À bientôt.
Lundi, bonsoir. Nouvel épisode. Oui, Hervé, je vous ai.
Non, j'allais dire bonsoir. Bonsoir Sébastien. Bonsoir Perrine. Bonsoir la Ferté-Gaucher.
Tu n'as pas entendu, Jonathan. Ah bon, mais si, allez-y.
Oui, donc bonsoir également.
Et lundi, nouvel épisode de notre série d'émissions sur les gros rouleurs. Ce mois-ci, les patrouilleurs. J'en profite d'ailleurs pour rappeler que malheureusement, un nouveau véhicule de sécurité a été heurté sur le réseau Vinci Autoroute aujourd'hui, ce qui porte à 11 depuis le début de l'année sur le seul réseau Vinci Autoroute le nombre de véhicules de sécurité heurtés sur l'autoroute. Je vous demande d'appliquer le corridor de sécurité, c'est important de l'entendre. Il faut vraiment, vraiment appliquer ce corridor de sécurité. Je vous souhaite plein de courage pour ce soir et cette nuit et la prudence. Je vous dis à lundi, 21h. Prenez bien soin de vous, car chaque jour, chaque nuit est une vie. Travaillons ensemble à la beauté des choses. 73 51 88, soit 212. Hashtag respectons les routiers. Vous écoutez le 107.7, il est 23h04.
Retrouvez Les Routiers sont toujours aussi sympas du lundi au jeudi 21h-23h sur Radio Vinci Autoroute.